Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 2 décembre 2022. Coupe du Monde de football, le Ghana éliminé de la Coupe du Monde, battu par l'Uruguay 2-0. Multiplication des appels en RDC en vue d'une enquête indépendante après les informations sur un massacre de masse à Kishishe. En Afrique du Sud, l'ANC reporte sa décision sur le maintien en fonction de Ramaphosa. Violence politique au Sénégal, nous ferons un retour sur la bagarre rangée au Parlement.
Donc il y a eu une bagarre où le monsieur femme, pas sa femme, le dossier du cuir est venu chiffler la dame. La dame a aussi pris une chaise qui a balancé le député. Il y a un autre député qui est venu, la dame qui a laissé donner un coup de pied dans le ventre. Et la dame femme qui l'a hospitalisé parce qu'elle est serrée en face.
Témoignage et réaction d'Alassane Samba Diop, directeur de la radio Immédiat, dans la partie magazine. Le Congrès américain adopte une loi pour éviter une grève majeure du fret ferroviaire. Le président français Emmanuel Macron boucle sa visite d'État ici aux États-Unis. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Ghana est éliminé du mondial battu par l'Uruguay 2-0. Malgré sa victoire, les coéquipiers de Luis Suarez quittent aussi la compétition au profit de la Corée du Sud qui a arraché son billet pour les 8e en battant in extremis le Portugal 2-1 ce vendredi à Doha.
Tout à fait Jean-Roger, les Black Stars qui ont encore raté un pénalty peuvent s'en vouloir. L'Uruguay élimine pour la seconde fois le Ghana du Mondial comme en 2010. Je suis en ligne avec Karim Ben Amor, journaliste sportif à Tunis. Karim, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir Jean-Roger. Oui, comme vous l'avez dit,
et l'histoire se répète.
Et l'histoire voilà, se répète. Malheureusement. Et malheureusement aussi pour l'Afrique, une victoire, c'est-à-dire une autre équipe nationale africaine qui n'arrive pas à prendre son destin en main et à passer au deuxième tour. Ça aurait été très très bien d'avoir trois équipes pour une fois au huitième de finale. Mais malheureusement, le Ghana n'a pas pu prendre ses responsabilités comme il faut. Le pénalty raté de Ayou donc était malheureusement un peu trop apparemment les a un petit peu sortis du match et la défense a pris le haut. 7 buts pour le Ghana au cours de cette première phase. Je pense que le Ghana, malgré une attaque qui est virevoltante, hein, ils ont marqué beaucoup de buts au cours des matchs précédents, mais la défense a pris trop de buts. Bon, on peut toutefois se consoler par rapport à cette défaite. L'Uruguay a fait une victoire à la Tunisienne, on va dire, c'est-à-dire une victoire inutile puisque la Corée du Sud a pris son destin en main.
Je suis également en ligne avec Abné Agbenigan Amouzou di Coach Fofo, ancien international togolais, fondateur encadreur au centre de formation de football ESIDA dans le Maryland et aux États-Unis. Coach Fofo, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Quand l'histoire se répète, on dit que c'est une farce, mais elle est mauvaise. Celle-là, le Ghana était méconnaissable dans son dernier match de poule, contrairement aux deux précédents contre le Portugal et la Corée du Sud.
Et malgré les conseils de Dia, l'ancien numéro 9 de 2010, qui a prodigué pas mal de conseils avant ce match, je crois que le Ghana a tout laissé derrière. Et malheureusement, comme mon précédent venait de le dire, c'est dommage de voir, on pensait tous voir trois équipes africaines au deuxième tour. Malheureusement, le Ghana a pris les valises et il doit rentrer. Et il doit revoir toute sa composition, refaser toute la construction de l'équipe nationale ghanéenne aujourd'hui et changer des choses pour lui donner une bonne chance au futur du football ghanéen.
Karim, la Corée du Sud, on dirait le visiteur de minuit inattendu.
Bah oui, écoutez, ils ont pris leur destin en main et puis ils ne se sont pas laissés abattre, ils ont attaqué malgré qu'ils étaient menés au score. 1-0 sur un but qui est venu très tôt dans le match. Mais les Coréens ont cru en leur chance, ils ont attaqué et ils ont réussi à forcer le destin en marquant ce deuxième but qui leur permet de clouer au poteau, c'est-à-dire pratiquement à la ligne d'arrivée, au finish, l'Uruguay. Bravo aux Sud-Coréens qui nous ont habitués dans le passé aussi à des prestations aussi étincelantes. Comme on dit maintenant, il n'y a plus de petite équipe, donc la Corée du Sud mérite d'être au deuxième tour. Malheureusement, le Ghana, ils n'ont pas eu l'occasion de prendre la graine, pas de faire comme les Coréens. S'ils l'avaient fait, ça serait eux qui auraient été en huitième de finale.
Coach Fofo, tout à l'heure, le Cameroun croise le Brésil. Qu'est-ce que vous attendez des Lions indomptables?
Pour moi, ça va être dur. Et en tant que footballeur et encadreur, je peux dire que ça va être dur. Mais le football a aussi son verbe à conjuguer. Donc, on attend de voir ce que le Cameroun peut offrir à sa nation ce soir, pour pouvoir quand même montrer quelque chose face à la nation du football, du grand football, le Brésil. Tout est possible, comme mon précédent vient de le dire, il n'y a plus de petites équipes, mais le Cameroun doit resserrer les rangs et renforcer ses cadres et aller vraiment à ce match pour tout donner, pour espérer avoir une victoire.
Karim, en quelques secondes, le miracle camerounais pourrait se produire, vous pensez?
Écoutez, les miracles se sont déjà produits. La Tunisie a bien battu la France, mais ayant vu le Brésil face à la Tunisie lors du match amical, il faudrait que le Cameroun puisse avoir vraiment une défense à la tunisienne, pas de naïveté derrière et surtout ne rater aucune occasion devant. C'est la seule manière pour que le Cameroun puisse être ce soir la troisième équipe africaine au huitième de finale.
Jean-Roger, la Serbie va jouer contre la Suisse dans le même groupe.
Le mondial comme si vous y étiez, c'était avec Eric Manirakiza. La suite du journal dans un instant. Personnalité, organisation et diplomate disent être horrifiés, demandent une enquête après les informations sur un massacre dans l'est de la RDC qui aurait fait mardi au moins 50 morts selon Kinshasa qui accuse la rébellion du M23. Michel Joseph.
Le M23 conteste être l'auteur de cette tuerie et dément être responsable de la violation jeudi d'un cessez-le-feu entre ses combattants et les forces armées congolaises. Mardi, alors que la trêve tenait encore avec l'armée loyaliste, des combats ont opposé le M23 à des milices dans le village de Kisheshe, à 70 km de Goma. Des témoins font état d'un grand nombre de morts parmi les habitants qui auraient été assimilés par les rebelles à des miliciens venus les combattre en tenue civile. La MONUSCO a condamné ces actes et appelé les autorités compétentes à enquêter. Elle ajoute que le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a été saisi et se tient prêt à contribuer à l'enquête. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, s'est dit horrifié par ces massacres de masse et recrutement forcé d'enfants. Stephanie Miley, chargée d'affaires des États-Unis, affirme que ces actions pourraient constituer des crimes de guerre. Le M23, une ancienne rébellion Tutsi, a repris les armes en fin d'année dernière. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir ce mouvement, ce que Kigali dément.
Les humanitaires n'ont toujours pas obtenu un accès sans entrave dans la région éthiopienne du Tigré, malgré l'accord de paix conclu entre belligérants il y a un mois, a déploré l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi. L'accord est important et j'espère que toutes les parties continueront à s'engager pour la paix, mais l'accord doit être appliqué dans son intégralité, a déclaré aux journalistes le chef de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, lui-même originaire du Tigré. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, parti au pouvoir, n'est pas parvenu aujourd'hui à trancher sur le sort du président Cyril Ramaphosa après la publication d'un rapport recommandant l'ouverture d'une procédure de destitution à son encontre pour malversation financière. Rosine Mounzero nous en dit plus.
L'avenir du chef de l'État est en suspens depuis la publication mercredi de ce rapport concernant la découverte en 2020 lors d'un cambriolage 2 millions de dollars en liquide dans une ferme d'élevage lui appartenant et sur le fait qu'il n'ait jamais signalé la perte de cette somme. La commission indépendante désignée par le Parlement sud-africain a estimé dans son rapport rendu mercredi que le chef de l'État pourrait être coupable d'infractions sérieuses à certains articles de la Constitution et se serait placé lui-même dans une situation de conflit d'intérêts entre ses responsabilités officielles de président et ses activités privées d'homme d'affaires. Cette commission a jugé que Cyril Ramaphosa avait agi d'une manière incompatible avec son mandat, ouvrant la voie à une éventuelle procédure de destitution du président. Le comité exécutif national de l'ANC, constitué d'environ 80 membres, se réunira de nouveau avant le 6 décembre, date de l'examen du rapport par le Parlement, a annoncé le trésorier général de l'ANC, Paul Mashatile.
Plus de 4,6 tonnes de cocaïne d'une valeur d'environ 150 millions d'euros ont été saisies par la marine française sur un remorqueur brésilien dans le golfe de Guinée. Cette opération a été conduite sur la base de renseignements transmis par l'Office anti-stupéfiant de la police judiciaire française dans le cadre d'une enquête internationale menée notamment avec les autorités brésiliennes et américaines.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain a adopté hier jeudi une loi pour éviter une grève du fret ferroviaire. Le texte voté dans l'après-midi au Sénat après un vote similaire à la Chambre des représentants mercredi. Le point avec Nathalie Barge.
Face à une menace de grève à compter du 9 décembre, M. Biden avait exigé du Congrès qu'il passe en force au niveau législatif, ce qu'il est habilité à faire en vertu d'une loi de 1926. Une grève du fret aurait fait perdre 2 milliards de dollars par jour, selon l'Association américaine des chemins de fer. Le texte prévoit une augmentation de salaire de 24% sur 5 ans de 2020 à 2024 avec effet rétroactif et un jour de congé supplémentaire. La Fédération des entreprises du rail s'est félicitée du résultat du vote. Cependant, le texte n'impose pas aux entreprises du rail d'accorder des jours de congé maladie supplémentaires à leurs employés, une demande pressante de la part de certains syndicats de cheminots.
Le président Joe Biden a promulgué la loi aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron conclut aujourd'hui sa visite d'État de 3 jours aux États-Unis par un passage à la Nouvelle-Orléans. C'est une ville emblématique des liens historiques franco-américains où il va faire la promotion de la francophonie. Jacques Aristide.
Emmanuel Macron a eu d'abord un petit déjeuner à Washington avec des représentants des entreprises du numérique. Il doit passer moins de 24 heures dans la ville de Louisiane, jadis française, la Nouvelle-Orléans, New Orleans en anglais, fut vendue aux États-Unis par Napoléon Bonaparte en 1803. Le chef de l'État français va y célébrer un patrimoine franco-américain, mais aussi rendre hommage à la résilience d'une grande ville américaine, endeuillée par l'ouragan Katrina qui avait fait plus de 1800 morts et des milliards de dollars de dégâts en 2005. Après le général de Gaulle en 1960, Emmanuel Macron a donc choisi de faire étape à la Nouvelle-Orléans. Il a prévu d'annoncer un projet ambitieux, le Fonds French for All, pour soutenir l'apprentissage du français partout où il est en jeu aux États-Unis, de la maternelle à l'université. Hier, lors d'une visite débordante d'affection diplomatique, Emmanuel Macron et Joe Biden ont affiché leur unité sur l'Ukraine, manifestant leur volonté de chercher ensemble une issue à la guerre. Ils ont également arrondi les angles sur les différences économiques qui avaient marqué la préparation de leur tête-à-tête dans le bureau ovale.
L'armée syrienne a été directement impliquée dans l'opération qui a abouti à la mort du chef de l'État islamique dans le sud de la Syrie le 15 octobre dernier, a déclaré aujourd'hui une source sécuritaire citée par l'agence de presse officielle Sana. Abu al-Hassan al-Hakimi al-Quraishi s'est fait exploser alors qu'il était encerclé par des combattants locaux dans la ville de Jazem, dans la province de Deraa, ont déclaré des protagonistes de l'affrontement à Reuters. Les forces démocratiques syriennes FDS, alliance soutenue par Washington, qui lutte lutte contre l'État islamique dans le nord et l'est de la Syrie a déclaré jeudi ne pas avoir participé à l'opération, tout comme le Pentagone. Et puis l'Organisation mondiale de la santé s'est réjouie aujourd'hui de l'assouplissement de la stratégie anti-Covid en Chine après des manifestations de colère contre la politique zéro Covid des autorités. Plusieurs villes ont commencé à assouplir les restrictions, comme l'abandon des tests quotidiens de masse, un des piliers fastidieux de la vie sous le règne du zéro Covid en place depuis près de 3 ans. Place maintenant, tout à l'heure dans quelques secondes, à la partie magazine. À tout à l'heure.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Pugilat jeudi à l'Assemblée nationale du Sénégal, un député de l'opposition a giflé une parlementaire, membre de la coalition au pouvoir, ce qui a donné lieu à une bagarre rangée au sein du Parlement. Ce n'est pas la première fois qu'une telle scène survient dans l'hémicycle sénégalais. Pour parler de l'intrusion de la violence dans le débat parlementaire au Sénégal, Idriss Fall a joint Alassane Samba Diop, directeur de la radio Imedia à Dakar.
Oui, il y a un député de l'opposition de la coalition Liwaskendi, qui appartient au parti de Pur, qui a insulté une dame de la coalition pouvoir de Mabokhiaka, pour la bonne sainte raison, dit-il que le 27 dernier, la dame avait fait une sorte de rassemblement national, en accusant le guide de Moussa Sidi, le guide du parti public au pouvoir, qui a dans l'opposition à l'Assemblée nationale, de n'avoir pas tenu sa parole, parce qu'il avait promis quand. Le pouvoir avait voulu mettre Khalifa Sall en prison de l'accompagner sur ce qu'il n'a pas fait. Et ça a créé des objectifs. La coalition de PCI a demandé des excuses de la part de la dame qui a refusé, en disant que quand Maradou décide d'entrer dans l'arène politique, donc il doit aussi assurer le joyeuseté de cette arène politique. Donc, le rival de politique s'est devenu aujourd'hui très crispé à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une bagarre où le monsieur Femme, l'ambassadeur Femme, le député de Pure, est venu siffler la dame. La dame a aussi pris une chaise qui a balancé le député. Il y a un autre député qui est venu, la dame qui a laissé donner un coup de pied dans le ventre. Et la dame semble être hospitalisée parce qu'elle serait en santé.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on a un pugilat à l'Assemblée nationale du Sénégal.
Oui, l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est une foire d'empoigne. La seule chose différente aujourd'hui, c'est que cette fois-ci, cette scène a été médiatisée. Elle était en direct à la télévision nationale, donc ce qui fait que les réseaux sociaux se sont emparés de cette situation pour la mettre un peu partout à travers le monde. Mais il y a eu toujours des coups de poing, des coups de là à l'Assemblée nationale sénégalaise. Mais c'était hors micro, hors caméra, mais cette fois-ci, c'est vraiment, ça a été diffusé largement et c'est arrivé aussi en contexte assez compliqué. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale est pratiquement en équilibre entre une opposition qui entre en force à l'Assemblée nationale. Une opposition radicale qui, sur tous les points, sur tous les aspects, conteste ce que la majorité fait. Donc, il y a deux partis et deux coalitions qui se regardent en chef de faïence à l'Assemblée nationale.
Et déjà, même, ils avaient donné le temps le jour de la rentrée parlementaire, non?
Oui, bien sûr, ça, le temps a été donné, mais les députés de l'Assemblée nationale de la coalition de l'opposition, après le guide de l'Italie, est monté sur une chaise, table à l'Assemblée nationale. A voulu arracher l'urne, battre les médias qui sont députés à l'Assemblée nationale de la coalition de Pure, arracher le micro. Donc il y a eu des invectives, des joyeuses entre les deux partis. Aucune partie ne donne ne tolère l'autre. Donc ils sont dans une situation assez compliquée et qui intervient à quelques 13 mois de l'élection présidentielle qui arrive. Il y a une contestation de la candidature du troisième mandat que je devrais refuser le président qui s'en fait depuis. Donc nous sommes dans une situation assez tendue. Où le dialogue politique est pratiquement rompu, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de troisième voie. Et ensuite, on a l'impression que tous les Sénégalais attendent d'aller droit de l'avenir. En général, dans ces mêmes situations, il y avait la société civile qui intervenait pour un peu calmer les esprits. Mais on a l'impression qu'on a franchi le Rubicon au Sénégal.
Alassane Samba Diop, directeur de la radio Imedia au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'avenir politique du chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, 70 ans, est plus que jamais dans la tourmente depuis la publication du rapport sur un scandale lié à un cambriolage chez lui où des liasses de dollars ont été retrouvées cachées dans un canapé en 2020. L'ANC examine de plus près les faits dans cette affaire qui met son président sous la menace d'une destitution. Le Parlement se réunit mardi pour voter ou non le déclenchement d'une procédure dans ce sens. Pour en parler, Nani Talani a joint André Thomas Aoussen, professeur à l'Institut du droit international et comparatif à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Ramaphosa vient justement de rassembler les nominations pour le congrès du parti d'ici à deux semaines. Il a pu réunir deux tiers des délégués des organismes de base du parti. Alors il est le candidat favori de la grande majorité du parti. C'est la gauche dans le parti qui essaye de le faire démissionner maintenant sur la base d'un rapport qui a été élaboré par une petite commission et par l'Assemblée. Ce rabat des accusations que Ramaphosa serait coupable d'avoir maintenu dans sa maison, dans sa ferme, un montant en cash. Il y a des témoins qui ne sont pas d'accord sur le montant exact, mais Ramaphosa, lui, il a avoué que oui, il avait reçu 500 000 dollars en cash d'un client qui était venu du Soudan pour lui acheter des bœufs.
Ce qui est reproché au président Ramaphosa, est-ce un crime?
Ce n'est pas vraiment un crime. En Afrique du Sud, oui, il y a un régime de contrôle des devises, de la monnaie étrangère. Ici, si on est en possession de billets étrangers, il faut faire une déclaration à la Banque nationale et communiquer que oui, voilà, on a un tel montant en monnaie étrangère. Là, oui, il a infraction, il n'a pas fait cette déclaration. Il y a un soupçon qu'il est en train de cacher l'origine, la vraie origine de ce comptant, et que cela pourrait constituer un crime de blanchissement de capitaux. Mais enfin, ce sont des accusations, ce n'est pas prouvé. Sur la base de ces accusations, le rapport d'un juge dans la réforme suggère que l'Assemblée nationale devrait initier une procédure de impeachment, une procédure qui pourrait provoquer la chute de Ramaphosa.
Il y a aussi l'ancien président Jacob Zuma qui est empêtré dans des scandales de corruption. Est-ce que tout cela ne risque pas de jouer en la défaveur de l'ANC?
J'indique qu'à ce moment-ci, l'ANC ne pourrait achever que 41 des votes s'il y aurait une nouvelle élection. Et l'opposition dans l'Assemblée demande déjà une nouvelle élection anticipée sur la base des scandales, sur la base des très grands défis énergétiques. L'Afrique du Sud, dans les derniers mois, n'a plus eu un fournissement régulier d'énergie. Dans la plupart du temps, il y a eu des coupures d'énergie de 8 heures sur 24 heures. Et ça, évidemment, c'est insupportable, c'est très grave.
André et Thomas Aoussen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Une start-up nigériane appelée Vinsight utilise la technologie pour aider les malvoyants à lire grâce à plusieurs produits, dont des lunettes intelligentes de lecture qui convertissent le texte en audio. Reportage de David Doyle, récit Nani Talani.
Meshack Odion se rend à un cours d'informatique dans la bibliothèque de son école. Le jeune homme de 17 ans fréquente une école pour enfants malvoyants dans la mégapole nigériane de Lagos. Aveugle de naissance, le musicien en herbe s'inquiétait de ce que le monde lui réservait avec le braille comme seul moyen de lecture. Aujourd'hui, il peut profiter de la technologie qui a mis au point une application pouvant l'aider à lire plus facilement.
En fait, je vais préférer cette application car il y a beaucoup de choses que je verrai là-bas et peut-être que ce ne sera pas en braille. Ce sera à vue, donc cette application m'aidera à le reconnaître.
Le regain d'espoir de Meshack Odion est dû à une start-up nigériane appelée Vinsight. L'équipe a développé plusieurs produits, dont une application mobile qui traduit le texte en audio. Le PDG de Vinsight, Kolawole Tomi, explique que ce logiciel est en train d'être transformé en lunettes matérielles.
Les glasses, Les lunettes exploitent à peu près la même technologie que le logiciel, mais à un niveau optimisé. Et ce que ces lunettes font à peu près, c'est qu'elles aident les malvoyants à pouvoir lire ou identifier les objets et les couleurs qui les entourent, et aussi identifier la monnaie. Aussi, au fil du temps, les lunettes pourront aider à améliorer l'acuité visuelle.
Kolawole Tomi soutient qu'il est devenu curieux de savoir comment la technologie pourrait aider les malvoyants après qu'une connaissance à l'université lui a parlé d'un ami qui avait été contraint d'abandonner l'école à cause de la cécité. Un peu plus de 15% de la population aveugle du monde réside en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces personnes manquent souvent des ressources et du soutien nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie de tous les jours. Selon le promoteur, les produits de Vinsight sont utilisés dans les écoles et les institutions et ont déjà atteint environ 5000 personnes.
En raison du changement climatique, la Tunisie connaît une grande sécheresse et un manque de précipitations qui affectent les plantations et le bétail. Momi, une start-up agroalimentaire fondée par trois jeunes Tunisiens en 2019, vient en aide aux agriculteurs et éleveurs en utilisant cette technologie pour prendre des décisions basées sur l'information concernant leurs troupeaux. Les détails avec Blanche Sanou.
Dans une ferme du nord-ouest de la Tunisie, un agriculteur de 54 ans, Abdel Kiari, regarde son téléphone pour avoir un aperçu du bien-être de ses vaches. Portant des colliers intelligents, son troupeau est équipé de capteurs directement reliés à une application de gestion du troupeau laitier qui offre des données en temps réel sur la santé et l'environnement des vaches. Abdel Kiari est un agriculteur tunisien.
J'utilise l'application depuis 3 ans. Ils ont placé des colliers sur les vaches. Ils ont également installé un capteur à l'intérieur de la grange, puis l'ont connecté à mon téléphone. Je suis toujours l'application et tout va bien. Si une vache est sur le point de mettre bas, l'application me prévient 3 semaines avant. Si la vache est prête pour l'insémination artificielle, l'application me prévient également. Et si une vache se sent pas bien, l'application me prévient. Cette idée est très bonne.
La start-up propose donc aux agriculteurs des informations sur le stress thermique, la gestation, la production laitière, l'insémination artificielle, l'activité physique et la détection des maladies, entre autres, pour permettre aux agriculteurs comme Kiari de maximiser l'élevage et la production laitière. Imen Amemi, ingénieur agricole et chargé de communication à Moumi Start-up.
La start-up Moumi a fabriqué un collier intelligent que l'on place autour du cou de la vache afin d'envoyer des alertes sur l'application Moumi, également disponible. Il envoie des alertes ponctuelles à l'éleveur pour lui dire que sa vache vit un stress thermique, que la température a beaucoup augmenté dans l'étable et qu'il doit ventiler ou verser de l'eau sur la vache si nécessaire. S'il y a beaucoup d'humidité, il doit prendre des mesures pour changer la situation afin de créer un environnement propice à la production de lait par les vaches.
Pendant l'été, les vaches de Kiari avaient des températures et une humidité élevées et cela affecte directement la production de lait avec une diminution de 35%. Une situation qui affecte également la fertilité des vaches et rend difficile leur insémination avec des coûts élevés. Avec Moumé, l'agriculteur Abdel Kiari arrive à surmonter ces difficultés.
Après 3 ans d'utilisation de l'application Moumi, la production de lait s'est améliorée et les vaches ont trouvé un rythme régulier pour manger et dormir, ainsi que pour boire de l'eau. Cette application m'a beaucoup aidé.
La Tunisie souffre d'une grave pénurie de produits laitiers et les responsables préviennent que si la situation persiste, les réserves stratégiques de lait du pays pourraient s'épuiser dans quelques semaines.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.